Deutsche Welle Magazine Santé.
1,7 million, c'est le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui chaque année meurent à cause d'un problème de santé lié à la pollution de l'environnement. Pollution de l'air intérieur et extérieur, tabagisme passif, insalubrité de l'eau, manque de moyens d'assainissement et hygiène insuffisante. La liste des risques environnementaux ayant un impact sur la santé, surtout des tout-petits, est longue. On en parle cette semaine dans ce magazine Santé. Nous irons également au Burundi pour faire un point sur l'impact de la rupture de stock de médicaments sur la santé des malades. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. D'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans est attribuable à la pollution de l'environnement. C'est ce que révèlent deux récents rapports de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui met en garde contre l'exposition des enfants à des substances chimiques dangereuses présentes dans les denrées alimentaires, dans l'eau ou encore dans l'air. Sans pointer du doigt les substances chimiques telles que le fluor, le plomb et le mercure, les pesticides, les polluants organiques et d'autres substances présentes dans les biens manufacturés qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Marie-Noëlle Brundris est experte scientifique du département santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé à l'OMS. Elle nous parle de cette problématique de l'impact de la pollution sur la santé des enfants.
Dans nos estimations, quant à la mortalité des enfants de moins de 5 ans, on prend en compte plusieurs facteurs de risque, mais c'est surtout la pollution de l'air, l'accès à une eau saine et de qualité, l'assainissement et l'hygiène, l'exposition environnementale à la cigarette, le changement climatique. Dans certains cas, on peut aussi encore estimer certains chimiques comme l'impact des métaux lourds. Malheureusement, il y a toute une partie encore de l'environnement pour laquelle nous n'avons pas encore des estimations. Parce que les études, soit ils sont à long terme, et donc parfois c'est difficile de savoir l'impact réel de l'environnement. On sait que nos estimations de 1,7 million sont en fait une petite partie de l'iceberg seulement, mais qu'en fait, sans doute, ce chiffre pourrait être beaucoup plus grand de la quantité de morts chez les enfants qu'on pourrait être en train d'éviter vis-à-vis de l'environnement et de la même façon aussi des maladies.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur les causes, mais déjà, est-ce qu'il y a des régions plus concernées que d'autres?
92% des villes au niveau mondial, au niveau global, ont des niveaux de contamination de l'air qui sont en-dessus des normes de l'OMS. Et donc, on est tous exposés à ces facteurs de risque environnementaux, même si les taux de mortalité sont plus clairs dans certaines régions que dans d'autres.
Pendant la grossesse, quel est le degré de risque?
Déjà, pendant la grossesse, nos organismes, nos systèmes sont en train de se développer. Donc, c'est clair que quand nos poumons sont en train de se développer, tout ce qui est exposition à l'air, c'est une période qui est très vulnérable de notre vie. La même chose lorsque nos cerveaux se développent, mais surtout pendant la période intra-utérine, tout ce qui est une exposition au plomb ou au mercure, par exemple, qui sont neurotoxiques, aura des effets beaucoup plus importants. Et certains de ces effets, on peut les voir assez tôt dans la vie, et il y a certains de ces effets, justement, qui se multiplient avec d'autres, avec des conditions aussi de l'être humain, comme nos génétiques et notre nutrition, et qui peuvent donner des effets dans la santé de l'enfant plus tardivement ou même dans la santé de l'adulte, comme par exemple une exposition à l'arsenic dans l'eau peut augmenter nos chances d'avoir un cancer des poumons, par exemple.
Il y a aussi la question des déchets électriques et électroniques qui polluent également beaucoup l'environnement, notamment en Afrique. S'ils sont mal recyclés ou pas du tout recyclés, quel danger représentent-ils ces déchets ? Pour les enfants notamment.
Ces déchets électroniques souvent ont une quantité incroyable de poisons dedans, dont le plomb et le mercure. Par exemple, une des façons les plus faciles d'extraire du cuivre et de pouvoir vendre du cuivre, c'est en prenant les câbles et en les brûlant en masse dans un feu. Et donc souvent les câbles, ils sont aussi recouverts par du plomb. Donc les communautés, les enfants sont après exposés au plomb qui est laissé par ces câbles, ainsi qu'aux dioxines qui sont transmises par les plastiques dans la fumée. Donc quand on fait une révision systématique de la littérature, on voit que en fait, dans tous ces composants qu'il y a dans les déchets électroniques, s'ils sont mal recyclés, on peut avoir, il y en a qui sont cancérigènes, il y en a qui sont neurotoxiques. C'est basiquement, on peut choisir son poison là-dedans. Par contre, on sait que si on les recyclait d'une façon responsable. On pourrait quand même avoir beaucoup de matériaux, on pourrait récupérer beaucoup de ces matériaux qui pourraient être vendus et il y aurait un vrai impact économique dans le recyclage un vrai bénéfice économique dans le recyclage correct de ces déchets électroniques si on arrive à protéger justement la santé des travailleurs et des communautés les plus pauvres.
Pour changer la donne, hein, que faut-il faire concrètement? Par exemple, au niveau de l'OMS, quelles sont les initiatives entreprises?
Une des choses que pour nous est très importante, surtout au niveau de la centrale de l'OMS, c'est de générer constamment de l'évidence et des données. Et ce genre de publications, justement, comme l'Atlas, sont très importantes pour nous parce que ça nous permet vraiment de dire à tout le monde il y a un problème pour la santé des enfants qui est présent aujourd'hui, mais qu'on peut prévenir, on peut sauver plusieurs milliers de vies, voire même des millions de vies. Et surtout, il y a des solutions qui existent. On a par exemple des guides avec des niveaux de ce que devrait être la contamination de l'air dans les maisons, en dehors des maisons. Des guides aussi de ce que ça veut dire de l'eau saine, des campagnes aussi pour aider les villes à prendre les politiques correctes justement pour diminuer la pollution de l'air. Par exemple, la campagne Breathe Life. Aussi, on a des campagnes pour éliminer le plomb, par exemple, de la peinture. Le plomb, on l'a presque éliminé de l'essence au niveau mondial, mais il persiste encore dans les peintures. C'est un grave problème dans beaucoup de pays. Et donc maintenant, il y a une grosse campagne au niveau mondial pour éliminer ce plomb de la peinture.
Marie-Noëlle Brune-Driss, experte de l'OMS sur les questions d'environnement et déterminants sociaux de la santé, insiste également sur l'importance d'un changement de comportement pour le bien des générations actuelles et futures. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, c'est d'ailleurs le point 3 des objectifs de développement durable. Les ODD qui visent à améliorer l'accès à l'eau et aux moyens d'assainissement et d'hygiène, à favoriser le passage à des énergies propres afin de réduire la pollution atmosphérique et à inverser la tendance en matière de changement climatique, ce qui aura forcément un impact positif sur la santé des enfants. Vous écoutez le magazine Santé, on se rend à présent au Burundi. Le Fonds mondial vient de retirer sa confiance au ministère chargé de la santé publique et de la lutte contre le sida dans le pays. En cause, la gestion des financements destinés à lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Le fonds accuse le ministère de sous-utiliser des ressources disponibles, ce qui a des répercussions sur la prise en charge des malades. Des répercussions d'autant plus graves en cas de rupture de stock de médicaments. À partir de 2018, les financements seront donc gérés par le PNUD Burundi afin d'atteindre de meilleurs résultats. Notre correspondant à Bujumbura, Antedites Niragira, visite certains centres de prise en charge des malades.
Au nord de Bujumbura, au centre Saint-François d'Assise abrite l'action de lutte contre la malaria. L'association ne traite que les cas paludéens depuis 2004 pour les pauvres. Le paludisme est la première cause de mortalité au monde entier. Au Burundi, la situation s'est aggravée depuis les deux dernières années avec plusieurs cas de décès. Albert Mboneranye est le représentant légal de l'action de lutte contre la malaria. Les statistiques et la décision du Fonds mondial motivent ces démarches de lutte contre l'épidémie.
Depuis 2016, on connaît beaucoup de cas de décès liés au paludisme à travers le pays. Quand je vois le nombre de gens qui sont morts en 2016, c'était autour de 3774 cas de décès enregistrés, sans dire les autres gens qui meurent à la maison, etc. Et c'est ainsi qu'au niveau de l'action de lutte contre la malaria, il y a deux axes d'intervention. C'est la prévention contre la malaria et le traitement des cas paludéens.
Le centre de santé Vizigilo est au centre de Bujumbura. Il s'occupe des cas paludéens, les tuberculeux et les personnes vivant avec le VIH-Sida. Les soins y sont gratuits et les malades se paient seuls les médicaments. Les dysfonctionnements du secteur de la santé publique affectent les services de santé, avec surtout les difficultés d'approvisionnement en médicaments. C'est ce que déplore Albin Ouimana, le représentant des cliniciens sans frontières.
C'est pas facile. Les pharmacies de gros titres ne trouvent pas de médicaments essentiels. Par exemple, pour le moment, c'est le paludisme. Donc, Donc le médicament que nous utilisons, c'est la quinine. La quinine coûte énormément cher dans les pharmacies d'Ogro. Il n'y a pas de médicaments uniquement. Il y a parfois des médicaments génériques. Les spécialités, c'est quasiment impossible de trouver ces médicaments.
Et quand ils trouvent ces médicaments dans les pharmacies d'Ogro, comment se présentent les prix à l'approvisionnement?
C'est énormément cher. Et un exemple de la quinine, en carton, c'est 2 700 000 pour 1000 comprimés. Et chez nous, nous n'avons pas de réactifs de laboratoire pour examiner ce paludisme, la tuberculose aussi, ce VIH. Et les patients se présentent, nous n'avons rien à faire pour aider.
La situation inquiète le personnel soignant, perd sa confiance vis-à-vis des patients. Lévis Akizima est un laborantin et membre du personnel soignant de l'organisation Cliniciens sans frontières.
Les patients ne peuvent pas être fiers de nous-mêmes et ils ne peuvent pas avoir tous les soins comme ils veulent. Ça arrive souvent, ça peut arriver un cas, un patient se présente devant toi et tu manques quoi à faire dans ma profession, je me sens mal. Et c'est pourquoi je demande de renforcer tout possible dans notre secteur de la santé pour bénéficier tout possible.
Les difficultés qu'éprouve le personnel soignant en cas de rupture de stock se répercutent sur les malades. Ils sont obligés d'attendre la disponibilité des médicaments pendant des heures, voire des jours. C'est du moins ce qu'affirme Valérie Naïmana, qui bénéficie des soins des Cliniciens sans frontières.
Il m'est déjà arrivé qu'un médicament ne soit pas disponible. On nous fait attendre quelques heures pour éviter le drame. Ils nous informent du manque de certains médicaments. Ils nous donnent un autre rendez-vous et nous revenons les prendre. Ils nous les prescrivent entre-temps. Au retour, nous trouvons les médicaments disponibles.
En début de l'année, le ministère de la Santé publique a déclaré le paludisme une épidémie suite à la recrudescence des cas positifs. Les cas de tuberculose et de séropositif ne faiblissent pas non plus. Que le Fonds mondial y investisse beaucoup d'efforts pour sauver des vies en danger, selon les experts de la santé. Antenne Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de ce magazine santé. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
Il y a deux jours, je crois que le ciel me tombe sur la tête. Bébé, j'ai beau essayer toutes sortes de recettes. Oh doudou, y a rien à faire, c'est toujours le flop. Mais comment font les autres pour être au top?